sur le podcast de l'Institut V qui va à la rencontre des professionnels de la gastronomie végétale. Je suis Karine Castro et je suis ravie de vous accueillir sur ce nouvel épisode pour vous présenter Daniel Becker, fondateur de la marque Linola. Les fruits secs, vous connaissez ? Eh bien, saviez-vous que derrière Linola se cache le secret de ses oléagineux ? Un moment eureka a suffi à Daniel pour cogiter sur la manière de recycler les résidus de fruits secs. Et à force de chercher et de tester, il a fini par trouver la solution pour créer un produit innovant et éco-responsable qui soit utile aux chefs, et pas seulement. Oui, parce que ce sont d'abord les huiliers qui sont bien contents de pouvoir donner une seconde vie à leur matière première. Quant aux chefs pâtissiers, ils découvrent en Linola une couverture idéale pour leur créativité. Linola est née d'une conviction forte qu'une autre manière de produire est possible si l'on s'intéresse vraiment à l'ensemble du produit. Je suis ravie de vous présenter Daniel qui va nous en parler et sans plus attendre, je laisse place à notre conversation. Bonjour Daniel.
Bonjour Karine.
Comment vas-tu ?
Très bien, merci. Et toi ?
Ouais, ça va super, merci. Écoute, je suis ravie de t'accueillir sur le podcast de l'Institut V. C'est ta première podcast ou pas ?
Je crois que oui. Hein.
Ah, génial, je suis contente alors.
Je suis ravie aussi.
Bon, nous, on se connaît depuis quelques années maintenant. De mémoire, c'est à Lyon qu'on s'est rencontrés la première fois.
Pardon, c'était à Lyon la première fois qu'on s'est rencontrés. Je pense qu'on a pris un petit café ensemble, il me semble, n'est-ce pas ?
Oui. C'était à Lyon parce que Lyon, c'est la ville où tu habites et où tu travailles.
C'est ça. Je suis à Lyon depuis 2013. Et je travaille. Bah, j'ai commencé à Linola sur Lyon même. Et puis, petit à petit, on a déménagé dans l'ouest lyonnais. Mais moi, j'habite toujours en centre-ville.
Ouais, c'est ça. Et nous, on s'est rencontrés en 2018, si ma mémoire est bonne. C'était tout juste un an après que tu aies lancé le Linola. Que tu l'aies lancé officiellement. Hein. On va en parler.
C'est possible, ouais.
En tout cas, quand j'ai découvert ta marque grâce au réseau, j'ai tout de suite été curieuse de ton concept qui avait vraiment quelque chose d'original et d'innovant et ça m'a intriguée. Donc, j'ai voulu te rencontrer. Je suis ravie qu'on soit toujours en contact et de voir aussi ta progression tout au long de ces années.
Oui, surtout la progression de ce marché aussi. C'est incroyable ce qui s'est passé depuis ces années.
Absolument. Alors, Daniel, pour ceux qui ne te connaîtraient pas, est-ce que tu peux te présenter ?
Oui, bien sûr. Donc, Daniel Becker, j'ai 30 ans, d'origine israélienne. J'ai grandi à Tel Aviv jusqu'à mes 21 ans. Cuisinier depuis assez jeune et passionné par la France et par le français. Donc, j'ai commencé en parallèle à apprendre le français à l'école. J'ai intégré la restauration en tant que cuisinier à l'âge de 15 ans. Et puis, donc, petit à petit, ma curiosité a grandi. Et à 21 ans, j'ai pris l'avion pour l'aventure, chercher un endroit en Europe avec beaucoup d'attention pour la France, pour aller plus loin dans l'exercice de mon métier. Pour mieux apprendre, connaître les origines, connaître les matières premières, les cultures et les façons de transformer. Et puis, donc j'arrive à Paris et à Paris, très rapidement, je m'aperçois que je reçois une bourse assez incroyable pour l'Institut Paul Bocuse à Lyon. Je refais ma valise très rapidement. Je fais un petit détour par l'Asie du Sud-Est juste pour le fun. Et en 2013, j'intègre l'Institut Bocuse.
Ouais. Et là, tu découvres des choses incroyables. Tu as appris quoi exactement à l'Institut ? Tu m'en as parlé, mais je voudrais que tu nous en parles, toi.
En fait, l'Institut, c'est une expérience, toute cette période, c'est une période très intense d'apprentissage. Bien évidemment, par le biais de l'école, sur le savoir-faire français, une tradition française. De la cuisine, la conception aussi de la cuisine, comment elle est née, d'où ça vient, les personnes clés dans le, qui ont donné du caractère à la cuisine française et à son impact. Et en parallèle de tout ça, je découvre un peu de manière plus autonome une deuxième passion, toujours dans le métier, et qui est vouloir mieux comprendre la partie chimique, physique des aliments, de quoi ils sont composés, quels sont les impacts, qu'est-ce que c'est que la chaleur, que le froid, que le gras, que le protéine. Vraiment avoir presque une vision, je dirais, plus mathématique de la cuisine. Et ça vient tout simplement de l'idée où je me dis si ça va être mon métier pendant les prochains 30 ans, par exemple, j'aimerais aussi mieux savoir ce que je fais, pas juste deviner, mais aussi être sûr de comprendre ce qui se passe pendant que je choisis telle ou telle cuisson, telle ou telle température, tel ou tel environnement, etc. Donc c'était deux, je dirais, deux extrémités. D'un côté, le côté très traditionnel, à l'ancienne, et comprendre les bases, et de l'autre côté, aller dans l'autre côté de la salle, vers les cuisines avant-gardistes, beaucoup d'influence espagnole, américaine aussi, et d'aller vraiment sur les deux côtés en même temps. C'était très très riche et du coup très intéressant aussi, je pense, de le faire en même temps. Parce qu'il y a pas mal de liens, en fait. On voit très bien, du coup, l'évolution, d'où on est parti, jusqu'où on peut aller. Et après, moi, du coup, ça m'a permis de retrouver ma place à moi là-dedans, entre les deux.
Absolument. Ce que tu m'avais expliqué, c'est qu'à l'école de cuisine, les jeunes chefs apprennent surtout le quoi et le comment. Mais toi, c'est plutôt le pourquoi qui t'a poussé à vouloir comprendre le fonctionnement des techniques et à creuser les sujets. Vraiment être dans le pourquoi plutôt que le quoi et le comment.
Exactement. Enfin, les deux sont importants, les trois même, sont très très importants. Je veux dire, tout ce qui est le geste du cuisinier ou du pâtissier, mais aussi l'histoire. Et aussi, souvent, on dit en rigolant qu'on a les écoles de cuisine, quand on pose des questions, on lui dit pourquoi on fait ça? Ben, parce que c'est comme ça, ou parce que ça marche, ou parce que. On m'a appris de faire ça, ou j'ai déjà fait 5000 fois et tout se passe bien, donc il n'y a pas besoin de changer. Moi, de ma nature, j'aime l'innovation, j'aime faire quelque chose de nouveau, découvrir des nouvelles émotions et des nouvelles sensations, en fait, qu'on n'a pas encore vécu. C'est un peu mon plaisir, que ce soit dans la nourriture, mais aussi ailleurs. Et je pense que tous ces éléments sont très importants. Si on sait uniquement pourquoi, on ne peut pas cuisiner. Parce que du coup, il faut savoir comment, qu'est-ce qu'il faut faire et comment.
C'est la base.
Exactement. C'est la technique. La technique, c'est hyper important. Mais le pourquoi, c'est le décodage de la technique. C'est pourquoi, en fait, on fait ça. À quoi ça sert? Qu'est-ce qui réagit? Et du coup, quand on regarde ça de manière plus large, du coup, c'est là où on peut voir des similarités entre deux ingrédients ou entre deux techniques de cuisson et de commencer justement à jouer un petit peu avec. J'applique telle technique sur ce produit, j'utilise ça pour remplacer ça. Et finalement, je pense que cet entre-deux, c'est la description parfaite de l'inola. On prend quelque chose de très traditionnel comme le chocolat et on lui fait un processus très innovant pour justement créer quelque chose de très nouveau, mais qui ressemble quand même à l'original. Donc, on est vraiment entre les deux.
Donc c'est vraiment à l'Institut Bocuse que naît ton idée de créer une marque de couverture végétale, donc que tu as appelée Linola. Comment est-ce qu'elle est née, cette idée, vraiment concrètement, d'aller vers la couverture végétale?
Alors c'était, j'ai envie de dire le hasard, mais c'est pas que le hasard, parce que ça vient justement après pas mal d'apprentissage autodidacte, de recherche, de voyage même. J'étais au Pérou juste avant d'avoir cette idée, pour visiter des plantations de cacao, des usines, sans faire le terrain, de l'autre côté avoir beaucoup d'apprentissage sur la technicité du chocolat, du beurre de cacao, qu'est-ce que c'est. On n'a pas l'habitude, en fait, quand on parle, que ce soit une personne lambda ou même un cuisinier ou un pâtissier, pour lui, le chocolat, c'est un tout, c'est un produit fini. On ne voit pas vraiment ce qu'il y a à l'intérieur, on ne comprend pas forcément de quoi c'est composé. Donc, il y a eu beaucoup de recherches là-dessus. Et c'était un moment assez drôle et imprévu, où justement, chez Bocuse, on avait aussi une grande partie théorique, dont une partie sur la nutrition. Et du coup, c'était en deuxième année, il me semble, on parlait des fruits secs. Et en voyant justement les valeurs nutritionnelles, donc combien de matières grasses, combien de protéines, etc., c'est là où j'ai fait un lien très clair, qui n'était pas clair pour moi avant, entre les fruits secs et le chocolat. C'est en comparant les deux procédés de fabrication, d'un côté le travail du cacao et de l'autre côté le travail du fruit, où j'ai compris qu'il y a quelque chose à faire et que ça peut être très intéressant. J'ai été complètement embarqué par surprise dans cette aventure. C'était jamais un plan. Mais quand j'ai eu cette idée, je me suis dit, waouh,
Une
pour un chef.
révélation, une révélation presque.
Ah, mais carrément. Franchement, ça m'est arrivé. C'est pas la seule fois où ça m'est arrivé dans mon métier. Mais c'était certainement la plus flagrante et la plus puissante. Où j'ai senti, je me suis dit, mais en fait, si ce que j'ai en tête, il marche et qu'il n'existe pas encore, en fait, pour un chef, c'est génial. C'est tellement enrichissant, c'est tellement. Ça ouvre plein de possibilités. Et en plus de ça, ça rentre complètement dans une démarche éco-responsable. C'est tout ce qu'on peut se souhaiter. Et d'avoir quelque chose de nouveau et d'intéressant, et de l'autre côté, qui correspond bien, pas seulement aux tendances, parce que les tendances, ça fait plein de choses, mais aux besoins, je dirais, de la planète et des gens de la planète. Donc oui, c'était ça m'a j'y voyais l'avenir, si tu veux, de ce métier.
Et donc à partir de là, tu commences à aller à la rencontre des huiliers pour comprendre comment ils travaillent, comment ils récupèrent les résidus de noisettes, par exemple, comment ils travaillent les techniques, les méthodes de fabrication. Est-ce que tu peux nous raconter ça?
Alors c'est vrai que effectivement, j'ai eu la chance, c'est ces rencontres aussi qui m'ont inspiré, qui ont contribué à l'idée, enfin à la naissance de cette idée, et après à son développement. Parce qu'en fait, ce qui se passe, pour être plus concret cette réalisation que j'ai eue, si on prend le cacao, donc le cacao, quand on le presse, on reçoit deux produits. D'un côté, il y a le beurre de cacao, donc la matière grasse pure qui vient de la fève. Et de l'autre côté, la poudre de cacao qu'on connaît tous pour faire des gâteaux ou des boissons, etc. Donc ça, c'est deux produits qu'on connaît, on comprend très bien le procédé. Quand on parle de la noisette, par exemple, on voit tous des huiles de noisette dans de belles bouteilles au supermarché ou dans des épiceries fines, mais on ne voit jamais le coproduit. On a parlé beurre de cacao, poudre de cacao. Là, on a huile de noisette. Il y a quelque chose qui manque. Et en effet, quand j'appelle les huileries, pour savoir déjà si ce produit existe, bien sûr que je n'invente pas, et savoir qu'est-ce qu'on peut y faire, ils me disent tous, la personne sait quoi en faire. Ça a un bon goût, c'est intéressant nutritionnellement. Mais à part donner à manger aux aliments, personne n'arrive à valoriser ça dans une préparation ou autre. Et du coup, j'ai compris que aussi pour eux, en fait, il y avait un grand enjeu économique et de durabilité alimentaire, tout simplement, parce que on est beau à produire quelque chose, mais si à chaque fois qu'on produit, on doit jeter la moitié, c'est un peu moins drôle. Donc ça m'a d'autant plus motivé à aller creuser, à essayer d'en faire quelque chose d'intéressant.
Donc, c'est ce travail aussi à leur côté qui t'a permis de réfléchir à la manière de construire ce produit. Et tu finis par lancer donc la marque Linola en 2016 à Lyon, c'est ça?
À fait.
Et l'année suivante, tu présentes le concept au CIRA en janvier 2017.
Tout à fait, oui, on a lancé, enfin, le lancement était décembre 2016, donc c'était quelques semaines plus tard où
Ouais.
on a eu la chance effectivement d'être accueilli au CIRA chez l'Institut Paul Bocuse.
Ouais. Et ensuite, tu présentes au Veggie World de Paris en avril 2017.
Oui, même avant, je crois que début janvier, on était dans le premier Veggie World à Lyon.
Ah oui, exact, d'accord.
Le tout premier, qui en effet, c'était ouais, le premier événement où on s'est présenté au grand public. C'est ça aussi, du coup, ça fait partie du début de cette histoire. Au départ, où du coup, j'ai été accueilli dans une pâtisserie ici à la Croix-Rousse, à Lyon. Je travaillais la nuit pendant qu'ils étaient fermés pour faire de la production. Et du coup, comme je savais pas encore où ça allait aller, comment les gens vont l'accepter, je me suis dit que je vais présenter ça et aux professionnels, mais aussi aux particuliers. Donc, le choix de participer dans des événements orientés vers le véganisme. Ça s'est plutôt très bien passé. Eu
Avec
des
de bons
très très bons
retours.
retours. Ouais, des très bons retours. Mais au bout d'un moment, en fait, au bout de 6 7 mois, je pense, d'activité, j'ai senti que c'était, étant tout seul, c'était trop compliqué de faire une marque B2C et B2B en même temps. Et comme je viens du métier, je me suis souvenu justement de ce moment de réalisation où tout de suite ma réflexion était, les chefs vont adorer ça. Et ça pourrait être un vrai outil pour eux. Et j'ai préféré de m'imaginer qu'il y aura des milliers de chefs à travers le monde qui utiliseront ce produit plutôt que de garder la formulation pour moi et en faire un produit qui va chez un client, chez un particulier.
Ouais.
Je voulais justement que ça serve pour l'imagination, pour la créativité.
C'est à eux que tu voulais t'adresser finalement.
Oui, dans mon cœur, ils étaient plus présents et je me suis dit, de toute façon, ça va finir chez un particulier, ça va finir dans la bouche de quelqu'un qui va
Oui.
prendre plaisir à le manger. Je préfère de savoir que sur le chemin, il y a aussi des milliers de chefs qui ont découvert une nouveauté, qui sont inspirés et qui ont créé des nouvelles choses.
Oui, absolument.
Encore plus de créativité.
Alors, est-ce que tu peux nous présenter la gamme Linola aujourd'hui? Elle a évolué hein, depuis le début, mais si tu veux bien nous parler de ta nouvelle gamme, ta gamme actuelle en tout cas.
Oui, bien sûr. Alors, oui, effectivement, ça a évolué, tant mieux. Je pense qu'aujourd'hui, on arrive enfin à avoir une gamme assez complète pour couvrir pas mal des besoins des pâtissiers, des chocolatiers, des glaciers. Donc, on commence par la gamme initiale qui s'appelle Pure Fruit. C'est la gamme qui a fait naître tout le concept, où là, effectivement, on cherche à créer une couverture à base d'un fruit sec. Donc aujourd'hui, trois parfums qu'on propose régulièrement, qui sont la noisette, la noix de coco et l'amande blanche. Donc on part d'une base de beurre de cacao, à laquelle on rajoute le fruit sec déshuilé dont on a parlé tout à l'heure, et on y ajoute un petit peu de sucre et de la lécithine de tournesol pour finaliser la recette. Effectivement, cette couverture qui est dure à température ambiante peut être travaillée comme du chocolat, donc elle peut être fondue, cristallisée, mais surtout aussi être utilisée comme base pour des préparations type mousse, ganache, glaçage, etc. Donc on arrive et à donner de la texture, de la tenue et du goût très intense en même temps. On est à peu près entre 30 et 40% de fruits dans cette gamme-là. Après, on a une gamme qui s'appelle Intensité. On n'est pas loin du concept, mais du coup on cherche vraiment des parfums en particulier. Donc on a la couverture café et la couverture caramel salé. Dans ces deux couvertures, on est sur une base d'amande qui nous donne surtout la texture et la tenue. Et dans cette base, on y vient ajouter soit du caramel, soit du café, donc des grains de café qu'on source chez un torréfacteur lyonnais qui s'appelle Extrait. Donc de très bonne qualité. Et pareil, donc on arrive à avoir une couverture qui nous offre toutes les possibilités d'un chocolat de couverture classique avec ces deux parfums un peu phares de la pâtisserie. Voilà, notre troisième gamme qui est très récente, qui s'appelle Chocolat Éco, où là, du coup, c'est la première fois qu'on vient vraiment substituer les produits classiques de la chocolaterie avec des propositions végétales. Donc, on a un chocolat au lait végétal, au lait d'amande, qui est très, très, très gourmand et qui va très bien avec tout. Il est aussi plus adapté pour la chocolaterie. On a un chocolat blanc, qui sort en septembre, 38% de cacao, ou pareil, on est vraiment conçu comme un chocolat blanc. On peut remplacer un chocolat blanc classique par cette couverture, temps pour temps, avec les mêmes recettes. Donc, on est vraiment, dans notre zone de confort, je vais dire, et des quelques expériences que j'ai pu faire dans le développement de ce produit, par exemple, je trouve que même dans les préparations animales, enfin, à base animale, on utilise de la crème ou du lait. Il est plus intéressant d'utiliser cette couverture-là qu'un chocolat blanc classique. On arrive à avoir un goût qui est beaucoup plus franc, beaucoup plus léger, beaucoup moins yaourt et ce côté vraiment lacté, lourd, qui peut proposer un chocolat blanc classique. Mais c'est vraiment un produit pareil, clé en main. On sait quoi en faire tout de suite. On a un autre produit qui s'appelle l'Extra White, où là on est sur un produit très très technique et très blanc en couleur, d'où vient son nom. Et ça, c'est un produit très intéressant, notamment pour tout ce qu'on faisait avant avec le dioxyde de titane, qui est maintenant interdit en France et bientôt partout dans le monde. Donc pareil, on est sur le chocolat, la couverture la plus blanche du marché, que ce soit en végétal ou en animal, en termes de couleur, et c'est la seule en fait qui peut servir à ça, qui est sans lactose et qui est uniquement d'origine végétale. Donc pareil, c'est un produit très novateur, que ce soit pour le marché végétal, mais aussi pour d'autres marchés. Et pour compléter ça, on a deux chocolats noirs qu'on propose, qui eux sont biologiques pour le coup. Et donc on a un chocolat de base 60% d'origine République dominicaine, très sympathique, qui est un peu couteau suisse, tout ce qui est décoration, ganache, de la tablette fourrée ou des choses comme ça. Et un chocolat 67% où là on utilise du sucre de coco. Donc pareil, on essaie d'innover même dans le milieu connu du chocolat. C'est intéressant et par le côté de l'indice glycémique qui est plus bas, et donc c'est un produit qui peut être plus adapté pour les diabétiques. Et à côté de ça, tout simplement, c'est délicieux. Le sucre de coco qui est tellement aromatique, il apporte un complément au chocolat qui est vraiment unique. Et du coup, pareil, on est dans un produit plus sain, plus écologique, mais aussi gustativement très intéressant. Ça,
Oui.
c'était toujours le motto de l'Inola, c'est qu'on fait les choses différemment, mais tout aussi bon, voire mieux, pour justement aller dans l'excellence du goût, et du plaisir.
Ça permet aussi de désucrer les pâtisseries.
À fait. Tout à fait. Il y a certains clients qui utilisent nos produits grâce à ça. C'est ce qu'ils cherchent aujourd'hui. Ça leur permet même, par exemple, si on parlait du chocolat blanc qui est souvent très, très sucré, là, on est sur une composition qui l'est beaucoup moins, tout en gardant justement la même texture et la même rondeur, qu'on cherche dans un chocolat blanc. Donc, il y a ce côté-là aussi. Et puis, on fait aussi beaucoup de sur-mesure. C'est-à-dire que si demain, un client a besoin d'un produit moins sucré ou avec un autre type de sucre, ou avec peu importe ce qui peut aller dedans, des inclusions ou des épices, ou voilà, tout est ouvert. Notre système de production est conçu pour nous permettre justement cette agilité, pouvoir faire des grands batchs, mais aussi des petits. Donc là-dessus, on est vraiment partenaire d'innovation des chefs avec des très bons exemples, utilisant soit des sucres différents, soit en y ajoutant des arômes, soit en cherchant voilà, des mélanges, des fruits et des choses comme ça.
Est-ce que tu as des exemples à nous partager de recettes ou de créations qu'ont pu faire les chefs avec le linola?
Alors oui, on a par exemple, je vais pas citer les noms, par contre, Mais on a en exemple, on a eu déjà pas mal de gens qui ont utilisé nos produits pour des concours, dont aussi le concours de meilleur ouvrier de France, avec pas mal de gagnants aussi. Donc très sympa. On a fait une couverture CEP, par exemple, pour un chef qui est meilleur ouvrier de France. On a fait une couverture cacahuète une fois pour un pâtissier qui s'est inspiré de ça et qui voulait en faire quelque chose de très sympa. Après, on a fait justement quand j'ai travaillé sur le développement du chocolat au lait, on a fait un chocolat au lait spécial, désucré et aromatisé pour un grand client suisse. Pas mal de projets comme ça, très sympathiques, qui arrivent au fil du temps et qui marchent bien.
Qui
Donc,
te challenge et ça te challenge aussi dans la créativité.
c'est ça. Mais bon, c'est pour ça que je me lève le matin. Donc,
Exactement.
je prends.
Donc, un produit 100% végétal, made in France, à Lyon et éco-responsable, en partie bio, pas tout, mais en partie bio, tu nous as dit. Et au niveau de ton sourcing d'oléagineux, comment ça se passe?
C'est vraiment, je dirais que c'est presque le travail d'un chineur. Je suis un chineur de fruits secs. Aller chercher les gens qui ont leur savoir-faire, qui est souvent traditionnel. Ça se passe beaucoup, bien évidemment, sur Internet, mais aussi dans les salons et aussi dans des rencontres, de réseaux, etc. À chaque fois, c'est des nouvelles découvertes, c'est des nouveaux gens qui ont toute une culture d'entreprise qui est différente, qui se transmet aussi, dans leurs produits, dans sa saveur, dans sa façon d'être présentée. Mais c'est hyper intéressant parce que dans le monde entier, on fabrique de l'huile. Et dans le monde entier, on ne sait pas quoi faire avec le reste. Donc quelque part, c'est très intéressant de mieux connaître ce domaine. J'ai pu travailler avec des gens qui ont une micro-entreprise, ou c'est un business familial, où ils font ça dans leur garage, ou je ne sais pas quoi. Autant qu'il y a des artisans qui font ça depuis des années, des générations. Encore que des groupes un peu plus grands, chaque huile va dégager un autre produit qui va correspondre ou pas. Il y a beaucoup aussi de ces tourteaux, ces coproduits qui est inutilisable vu qu'en comme les gens savent pas quoi en faire, ils exploitent le fruit au maximum et finalement on reste avec du charbon. Donc c'est pas très intéressant pour nous. C'est vraiment c'est un travail de recherche, beaucoup de tests pour arriver à trouver le bon fruit avec le bon dosage, avec aussi un approvisionnement stable. C'est, je dirais, c'est la partie la plus agile de ce que je fais.
Donc, un producteur de fruits secs qui ne saurait pas quoi faire de ses résidus, est-ce qu'il peut te contacter?
Carrément, carrément, ça s'est déjà fait d'ailleurs.
Ouais.
J'ai déjà fait de la pâte à tartiner, par exemple, pour des gens qui ne savaient pas quoi faire de leur tourteau de noisette, et on a pu revaloriser ça et dans un résultat génial.
Super.
Ouais. Qu'il faut comprendre, c'est comme, il faut l'imaginer, comme vraiment de la poudre de cacao. C'est quelque chose qui a beaucoup de goût. Donc, c'est vraiment très, très dommage de ne pas en profiter.
Nutritionnellement, c'est puissant en plus parce que ça garde des propriétés nutritionnelles et c'est gras, mais c'est du bon gras en fait.
Carrément, carrément. Faut pas, enfin pour moi en tout cas, il faut pas avoir peur de manger du gras. C'est surtout le sucre qui ne fait pas toujours du bien quand on ne fait pas attention. Le gras, si c'est du bon, moi j'ai des go.
Et concrètement, alors, le linola se présente sous quelle forme? Ce sont des pastilles à faire fondre, c'est ça?
Exactement. Donc, ça se présente vraiment comme un chocolat traditionnel. Aussi pour avoir ce côté associatif, c'est très important pour moi, puisqu'on n'a pas l'appellation chocolat sur ces produits. Faut que les gens, à l'œil déjà, sachent dans quel monde ils rentrent. Donc, ça, c'était intéressant. Et pour finir, par rapport à la gamme, on a aussi, du coup, à côté, une offre de tout ce qui est pâte et praliné. Où là, on propose aussi des choses un peu traditionnelles, type pâte de noisette, mais des noisettes françaises. On fait aussi des fois de la pâte de pistache et du praliné pistache iranienne. Et on fait aussi des innovations dans ce domaine-là, où du coup, on fait un praliné coco très intéressant qui est croustillant. Donc, on fait une pâte de coco caramélisée dans laquelle on intègre de la noix de coco caramélisée. Donc, c'est très crispy. La texture est très intéressant. On fait un praliné café également, un praliné un peu grain. Et on fait, moi j'appelle ça le praliné noisette préhistorique, parce qu'il a encore de grains plus grands qu'un praliné à l'ancienne. C'est encore une marche en arrière et du coup des pralinés super craquants avec de gros morceaux de noisette, de caramel. Pareil,
Ça donne
c'est
envie.
des choses qui n'existent, ouais, c'est des choses qui n'existent pas et qui, je pense, aujourd'hui, en tout cas dans le monde de la pâtisserie, qui est tellement en vue et qui est aussi très concurrentielle. C'est ce genre de produits qui permettent au chef de se démarquer, de se dire, tiens, je fais autre chose, je propose une autre texture, une autre saveur, une autre intensité.
Donc là, les chefs, ils l'utilisent comment, la pâte à tartiner, par exemple?
Alors, la pâte à tartiner, c'est pas pour un chef, ça c'est plutôt pour ça
Oui.
sera plutôt pour une marque. Mais
Oui.
après, les pralinés et les couvertures, c'est vraiment dans toutes les applications qu'on peut imaginer, que ce soit pour faire des bonbons, pour faire de la tablette, pour faire du décor, de la ganache, de la mousse, du glaçage. Toutes les possibilités sont là. Et en plus, le savoir-faire, finalement, il est le même. Il n'y a pas besoin de reapprendre le métier. C'est le même métier, c'est les mêmes gestes, on en a parlé. Donc, on reste très connecté à ce côté traditionnel du chocolat et de la pâtisserie, sauf qu'à l'intérieur, ben, on cache une petite surprise qui est le goût. Et c'est comme ça que les gens arrivent à s'y retrouver aussi sur le côté technique.
Est-ce que les chefs, quand ils créent leurs produits avec le linola, ils le disent à leurs clients, tu le sais ça, s'ils parlent du linola ou voilà,
Je
ça
pense que
reste.
de plus en plus, je sens que de plus en plus, comme on a de plus en plus déjà de clients, ça fait que, bien évidemment, il y a le bouche à oreille qui augmente. Et puis, je pense aussi que les chefs, que ce soit les chefs qui font du végétal ou les chefs qui font du traditionnel, mais qui cherchent à élargir leur gamme ou à se réinventer avec des nouvelles propositions, ils comprennent aussi que voilà, qu'il y a de la valeur là-dedans. Ils veulent communiquer ça avec les clients, justement. Donc, c'est vrai que Linola aujourd'hui, c'est pas une marque qui sera forcément connue pour un particulier, qui ira dans une boutique, qui verra c'est fait avec du Linola, donc il sait de quoi ça parle. Mais ils savent aujourd'hui que ça peut l'intriguer, qu'il peut très vite aller sur Instagram, taper Linola et voir à quoi ça ressemble. Et que du coup, ça apporte la valeur aussi à son gâteau ou à sa tablette ou à son offre. Donc,
Est-ce qu'il y
de plus en
a
plus.
un linola préféré des chefs?
Je pense que ça dépend beaucoup des pays, mais c'est sûr et certain que l'unanimité est autour de la noisette. La couverture noisette, je dirais, c'est un peu la star. Elle est vraiment très, très, très bonne. J'en ai encore goûté la semaine dernière dans une boulangerie ici à la Croix-Rousse qui a fait un nouveau dessert avec la couverture noisette en ganache montée. Et j'étais choqué à quel point ça avait du goût, à quel
Ouais,
point la texture était agréable,
tu me
carrément.
donneras l'adresse, je vais le mettre dans les notes du podcast.
Et je pense aussi, enfin voilà, je vois aussi l'évolution du produit en soi, parce qu'au fur et à mesure, avec les années, j'arrive aussi à améliorer notre produit. J'arrive à voir que les gens ont de plus en plus de facilité à travailler avec, ils ont de moins en moins peur. Parce qu'il y a 5 ans, quand je suis allé voir les chefs, au départ, il y en avait pas mal qui ont ouvert des grands yeux en disant, oh là là, qu'est-ce qu'il est en train de nous préparer là, ce petit. Et aujourd'hui, bah, ça devient de plus en plus normal, standard. Ah, bah oui, couverture noisette, why not? C'est exactement ce qu'il me faut dans cette recette-là. Donc, les gens commencent à avoir cette réflexion, ils commencent à, ça rentre dans le sang du métier. Et ça, c'est un gros travail à faire. Je pense qu'on a encore un gros travail à faire là-dessus. C'était le départ. Mais aujourd'hui, je sens que le terrain est mûr. Pour faire ça, il y a déjà des gens, des références qui utilisent, des grands chefs, des machins. Donc, ça devient de plus en plus normalisé, on va dire.
Connu et reconnu.
Exactement.
Et toi, ton linola préféré?
Alors moi, c'était pendant longtemps le sésame que j'ai dû arrêter parce qu'on en reprend. Malheureusement, c'est pas le produit qui était le mieux compris, on va dire ça comme ça, parce qu'effectivement avec un goût assez remarquable. Mais le sésame, j'adorais ça. Le sésame noir aussi, qu'on faisait de temps en temps. Et je pense que j'ai très envie de retrouver la pistache qu'on n'a pas pu faire depuis un bon moment, vu la situation avec l'Iran. Et ça, c'était quand j'ai créé la marque, c'était le premier que j'ai mis au point, c'est le premier que j'ai testé avec une couleur magnifique, avec un goût de pistache. C'est clair que c'est mon fruit sec préféré.
Un peu ton
C'était le
bébé,
meilleur.
c'était le premier.
Ouais, exactement, exactement. Et après, je dirais pas non à une pastille de la noisette. Hein. C'est clair que c'est très très bon. Et puis, je comprends de mieux en mieux aussi enfin, le fait de travailler sur le côté sur notre chocolat au lait, soi-disant végétal. Pareil, c'était. Je pense qu'en termes de développement recette, c'était le plus grand challenge parce qu'avant, j'étais dans un terrain inconnu. Couverture noisette, il n'y avait pas de référence, donc je ne savais pas est-ce que je fais mieux, moins bien que les autres, il n'y avait rien à comparer, donc c'était soit ça me plaît, soit ça ne me plaît pas, et là ça s'arrête. Quand on parle du chocolat au lait ou du chocolat blanc, là on a beaucoup, beaucoup, beaucoup de références. Justement, c'était très drôle, j'ai eu un pâtissier corse au téléphone la semaine dernière, qui a 30 ans de métier. Il a découvert la marque, je crois d'ailleurs grâce à Graine de Papy, d'après ce qu'il m'a dit. Ouais, très drôle. Et donc il m'appelle, déjà il m'appelle tout intrigué en me disant, en 30 ans de métier, j'ai pas vu ça, j'ai pas vu une innovation à cette taille-là. Donc j'étais très intéressé pour découvrir et voir ce que ça vaut. Et quand il a reçu les échantillons, il m'a fait un retour sur pas mal de produits. Quand il a parlé du chocolat, il m'a dit du chocolat au lait. Il m'a dit, écoute, ton chocolat au lait, je saurais pas forcément te dire pourquoi je prendrais celui-ci et pas celui du voisin à côté. Il est comme les autres. Et moi, j'entends ça et j'ai dit, bah, en fait, c'est parfait. C'est que j'ai le plus grand compliment que je pouvais avoir. C'est quelqu'un de traditionnel qui goûte un chocolat au lait végétal et qui me dit, en gros, je sais pas à quoi ça doit être différent d'un chocolat au lait classique. C'est là où c'est gagné. C'est bon.
La différence, ça leur convient parce qu'ils ont leur marqueur, leur référence qui ne change pas finalement.
C'est ça. Et ça, c'est génial. Je pense qu'il s'est pas rendu compte à quel point ce qu'il disait était un grand compliment pour moi. C'est magnifique, et du coup, c'est vrai qu'à l'aveugle, il y a beaucoup de gens, aussi des enfants, qui goûtent ça et qui n'auront jamais remarqué une différence. Mais c'est clair que là où on a une référence, là, on doit vraiment creuser et, mine de rien, remplacer le lait. C'est quand même un produit qui donne beaucoup de rondeur, beaucoup de gourmandise, beaucoup de gras. Quand les gens aiment ça, ont l'habitude de ça. Le ramener au même plaisir avec quelque chose d'autre, c'est pas évident,
Oui, parce
mais je pense qu'on est.
après le challenge du pâtissier, c'est de faire de la pâtisserie 100% végétale avec du linola et que ça a le même goût. Ça, c'est leur challenge.
Alors, effectivement, alors, ce qui est, je pense que ça, c'est un sujet par rapport à laquelle je suis un peu ambivalent. C'est-à-dire que d'un côté, on a cette mission de vouloir retrouver des textures et des parfums dont on a l'habitude. De l'autre côté, je pense qu'il faut pas non plus trop se limiter à ça. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'au départ, moi, j'ai refusé d'entendre parler de cette idée de substituer du chocolat au lait ou du chocolat blanc. Dès que j'ai lancé les produits, tout le monde m'a dit, tu n'as pas un chocolat au lait ou un chocolat blanc? Je dis, non, 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 nous, on ne fait pas ça. On n'est pas là pour ça. On est là justement pour montrer qu'il y a d'autres choses, que ce soit pour faire du végétal ou pas. Effectivement, avec le temps, j'ai appris de plus en plus sur le véganisme et sur l'impact écologique des produits d'origine animale. J'ai pas mal appris sur l'industrie agroalimentaire aussi, et c'est là où j'ai compris que moi personnellement, j'aimerais qu'on arrête d'utiliser la poudre de lait dans la pâtisserie. C'est pas un produit que moi demain je vais dans une boutique, j'aimerais pas qu'on me vende de la poudre de lait.
Est-ce que tu conseilles les chefs quand tu les accompagnes dans ton produit, dans l'utilisation de ton produit, tu les conseilles, tu leur donnes des idées de recettes éventuellement?
Ah ouais, non seulement je parle, je trouve qu'on a un rôle quelque part éducatif et en tout cas, au moins pour éveiller la curiosité des chefs et de leur initier à savoir qu'il y a d'autres choses et qu'il y a peut-être aussi des bonnes raisons pour essayer de re-réfléchir ce qu'on propose dans une boutique ou dans un restaurant. On est beau à parler, mais il faut aussi faire. Et les chefs, comme tu le sais, ils n'ont jamais le temps. Donc, on prend aussi de plus en plus l'initiative de développer des recettes maison qu'on peut partager avec eux, que ce soit pour des préparations très basiques comme de la pâte sucrée ou toute autre pâte cuite. Ça peut être pour tout ce qui est ganache, des mousses. Vraiment être là comme source, comme référence et source d'inspiration pour le chef, pour savoir comment utiliser, comment arriver à des résultats tout aussi satisfaisants en utilisant des produits 100% d'origine végétale. Et ce qui est vraiment cool, c'est que non seulement les matières premières qu'on propose sont innovantes, mais leur utilisation aussi. Donc, par exemple, notamment avec la couverture amande, mais aussi avec d'autres. La couverture amande, par exemple, on peut l'utiliser pour faire une mousse à l'amande, comme on peut l'entendre avec du chocolat, mais on peut aussi l'utiliser pour remplacer du beurre et des œufs dans une recette de pâte sucrée. Donc, pareil, c'est des techniques innovantes à base de produits innovants. Donc, c'est pas mal déjà pour un chef à digérer, mais du coup, on est là, en fait, on leur donne tout sur un plateau, voilà comment on fait, goûter et décider vous-même si c'est bon ou pas. Donc, on arrive là-dessus aussi sur des recettes qui sont très clean. C'est très important aussi pour moi. Je ne vais pas utiliser de l'huile de palme, par exemple, et rester vraiment sans. Avec, je crois qu'on n'a pas d'additifs jusqu'à aujourd'hui dans aucune recette. Pareil, très important de rester sur ce côté naturel, minimiser le nombre d'ingrédients dans une recette. Et c'est aussi, du coup, de rendre la vie au chef plus facile et plus intéressante. Parce que créer son propre beurre et ses propres œufs, ça peut être un peu de boulot, mais c'est aussi super chouette, en fait, à savoir qu'on peut faire ça. Et du coup, ça initie aussi des nouvelles techniques.
En fait, c'est un produit qui aide le chef à développer sa créativité, finalement.
Tout à fait. C'était l'idée dès le départ. On va vous donner des outils qui vont vous faire kiffer, en fait, qui vont vous permettre des choses qui n'étaient pas possibles avant. Et à côté de ça, on a toute une casquette. C'est celui qui initie à la pâtisserie éco-responsable, qui initie au végétal, qui a des sucrés et qui accompagne le chef dans toutes les démarches. Je pense que le métier est en vraiment pleine évolution. Que ce soit en France, mais aussi ailleurs. Et du coup, le chef, ce qui n'a pas évolué, c'est que le chef n'a toujours pas de temps avec tous ces changements. Donc,
Et dans,
on est là.
Quand on a ces valeurs-là, on prend le temps. Il faut le prendre le temps pour se former, s'informer, découvrir. Ça demande du temps. C'est une démarche de temps. Voilà, je pense que la démarche, il faut qu'elle soit vraiment intérieure à la personne pour s'intéresser à ces nouvelles choses. Si c'est nouveau, forcément, ça demande du temps pour se l'approprier.
Ça, c'est clair. Et c'est clair qu'on va pas tout changer du jour au lendemain. Mais je pense que voilà, notre rôle à nous, de l'INOLA, en tout cas pour moi, par exemple, c'est d'aller éveiller cette curiosité chez les gens. Je vais pas tout leur apprendre. Chacun fait sa vie, chacun fait sa décision, sa recherche et ses conclusions aussi. C'est très important qu'on reste dans un environnement dynamique et où on se différencie. Mais c'est clair qu'Inola, elle peut s'aimer cette graine, de dire tiens, il y a quelque chose qui se passe, il y a quelque chose de nouveau, c'est un vrai mouvement de fond qui émerge. Et déjà, il faut que vous soyez au courant, c'est important. Et après, non seulement on vous met au courant, on vous donne aussi des outils pour aller là-dedans sans trop se prendre la tête, parce que quand on dit un pâtissier qui a 30 ans de métier, qui a toujours travaillé avec du beurre et des œufs, t'as plus le droit à ça, il dit je change de métier en fait, il est perdu. Donc on peut pas faire ça non plus. Le but justement c'est de pouvoir l'accompagner. Et une fois qu'il est rentré dans la démarche, qu'il a goûté des choses, qu'il a fait par exemple une ganache à la crème mais avec notre chocolat blanc et pas un chocolat blanc traditionnel, et qu'il goûte et il dit tiens, en fait je sens beaucoup plus le fruit que je voulais mettre en avant. Tiens, c'est intéressant ce végétal. Et du coup, passer par là pour dire, attends, mais peut-être que je peux remplacer complètement la crème, du coup. Peut-être que je n'en ai pas complètement besoin, parce qu'en fait, j'ai envie de trouver encore plus de goût, ou encore, voilà, de texture, peu importe.
Et là, il a envie de rester chef pâtissier.
Et il a envie de rester chez pâtissier, il a envie de continuer son métier et de redécouvrir son métier, redécouvrir son offre. C'est presque une renaissance pour certains. De
Intéressant.
dire en fait ce qu'on a appris à l'école c'est pas tout, il y a
Oui.
d'autres choses qui se passent, des nouvelles choses c'est pas et ce qui est important pour moi aussi, je le dis souvent, c'est que il y a des chefs à qui on parle du végétal notamment en boutique et on dit moi j'ai pas de la demande, on me le demande pas. D'un côté c'est clair que si on fait pas du végétal à la base, les gens qui en cherchent ne vont pas forcément aller chez vous. C'est important aussi de se montrer ouvert à ça pour inviter les gens à venir. Mais c'est aussi quelque part, c'est-à-dire quand on est chef d'entreprise, je pense qu'on a aussi la responsabilité non seulement de satisfaire nos clients, mais aussi assurer que ce que l'on fait est durable pour nous, pour notre équipe, mais aussi du coup pour la planète. Et si les conséquences de nos produits peut-être qu'on fait de l'argent, mais qu'en fait, sur ce chemin-là, on écrase beaucoup d'autres valeurs dans la société, c'est qu'il y a un trou quelque part, et finalement, on paye tous ce prix-là. On voit les températures qui montent, on voit les feux de partout, les inondations, il y a tellement de choses qu'on ne peut plus ignorer aujourd'hui. C'est à nous aussi, pour moi, en tant que chef d'entreprise, de dire, j'ai choisi mes valeurs, je mets mes limites. Et je crois dans ce monde-là, donc c'est ça aussi quelque part que je vais imposer à mon client. Si demain quelqu'un vient me voir et me dit, écoute, j'aime bien ton palais, comment tu construis les ingrédients. Par contre, je veux bien que tu me fasses un chocolat au lait classique avec de la poudre de lait. Je lui dis, je suis désolé, mais ça, on le fera pas
Oui. C'est
parce
pas
que
dans les
j'y
valeurs.
crois pas.
Ouais.
Donc je pense que c'est très intéressant aussi de faire ce parti pris. Et pour moi, justement, ce qui est enfin, mon ambition à moi personnelle, c'est d'un côté, et là on y est déjà, parce qu'on arrive à faire de la pâtisserie végétale qu'on peut pas différencier d'une pâtisserie classique, dans le sens où on va dire tiens, il y a un, comment on dit, un arrière-goût qui est désagréable, où je sens, où la texture n'est pas bonne, où il y a un arôme bizarre. Là, on l'oublie, c'est clair. Donc déjà, il faut que ça soit à niveau, que ça soit gourmand, que ça soit bon et propre avec des bons ingrédients. Et après, pour moi, dans 5 ans, quand on va rentrer dans n'importe quelle pâtisserie, il devrait plus y avoir une petite vitrine à côté où c'est écrit végétal sans lactose. En fait, c'est la vitrine totale qui pourra en contenir, en tout cas en majorité, des produits végétaux, sans forcément le dire. Parce qu'en fait, c'est bon, c'est de la pâtisserie. C'est pas quand on voit une pâtisserie, c'est pas écrit dessus pâtisserie d'origine animale. C'est écrit pâtisserie.
C'est vrai. Et la pâtisserie végétale convient à tous en réalité.
Oui, c'est clair. C'est clair. Et du coup, mais pour moi, en fait, ce qu'on appelle aujourd'hui la pâtisserie végétale, quelque part, il faut aussi arrêter. Ça, c'est de la pâtisserie et ça, c'est de la pâtisserie. Il y a des très bonnes pâtisseries végétales, il y en a des très mauvaises. Il y a des très bonnes pâtisseries traditionnelles, il y en a des très mauvaises.
Oui.
C'est pas parce que c'est d'origine animale que c'est bon et l'envers n'est pas vrai non plus. Enfin, il faut tout assurer tout le temps.
Encore une fois,
aujourd'hui,
ça dépend des produits utilisés, ça dépend des marques, ça dépend de...
C'est ça, mais c'est comme ça de partout. Ouais. C'est comme ça de partout. Donc, nous, on vient, on tape fort sur la table en disant, aujourd'hui, on est capable de faire de la super bonne pâtisserie végétale, point. Mm-hmm. Et du coup, demain, notre recette de crème et citron peut être aussi bonne, voire meilleure qu'un crème et citron d'origine animale. Et demain, dans une pâtisserie, il n'y a pas besoin de mettre là-dessus tarte citron végétale. C'est juste la tarte citron.
Ouais.
Mais bon, on n'y est pas encore, mais ça prend encore un peu de temps. Mais je pense que c'est là où on devrait viser parce que je pense que des fois, on fait l'erreur de trop vouloir séparer les deux en disant, ah non, ça, c'est que pour eux. Donc, en fait, ça peut convenir justement à tout le monde, à plus de monde. Et demain, pourquoi je ferais juste un petit gâteau pour les gens qui mangent, qui cherchent du sans lactose? Donc, je peux le proposer à tout le monde. Tout le monde sera plus sain. Tout le monde dépensera aura une empreinte carbone moins importante. Ça sera meilleur pour les aliments, meilleur pour la planète. Tout le monde en profite, en fait. Il n'y a pas besoin de mettre
ça de côté. D'ailleurs, les chefs disent eux-mêmes qu'ils ne veulent pas forcément faire de la cuisine ou de la pâtisserie pour une communauté, pour une typologie de clients.
C'est ça. Et comme ils ne le faisaient pas avant. Avant, ils n'ont pas fait une crème pâtissière en disant « ça, c'est que pour les gens qui mangent du lactose ». Ils se sont dit « ça, c'est pour les gens ». Et puis, de plus en plus, les gens ont dit « en fait, je ne mange pas ça mm-hmm. ». Souvent pour de très bonnes raisons. Voilà. Et du coup, les gens, ils changent. Et du coup, la recette aussi.
C'est super, Daniel. En tout cas, c'est un joli produit que j'ai eu la chance de goûter et je confirme, c'est excellent et qui te ressemble, qui porte tes valeurs. Et je te souhaite plein de bonnes choses pour la suite de l'Inola.
Merci beaucoup.
Est-ce que tu as des projets pour l'avenir de l'Inola? Certainement que oui.
Oui, bien sûr, comme toujours. Donc, c'est en pleine évolution. On va avoir un partenariat de distribution assez sympa en France pour les professionnels qui va commencer en septembre. Je pense que tu en devrais parler. Et puis petit à petit aussi dans pas mal d'autres pays, on commence à parler. Donc, j'espère qu'on pourra passer le mot un peu partout sur la planète. Des grands pays, des beaux marchés pour justement faire évoluer ces métiers. C'est très chouette.
Super, donc on va suivre ça de près. Où est-ce qu'on peut te suivre sur les réseaux sociaux? Tu as un compte Instagram?
Sur Instagram principalement, oui. C'est vrai qu'on n'est pas le plus bruyant sur les réseaux sociaux.
L'Inola officiel, c'est ça?
C'est ça, c'est nous, donc ça vaut le coup de suivre. Des fois, il y a des choses sympas, des fois, il n'y a rien, mais des fois, il y a des choses très sympas à regarder. Et puis, je pense que cette prochaine année, ça va de plus en plus évoluer. Donc, oui, Instagram pour le moment.
Ça marche. Bon, merci Daniel.
Merci Karine, à très vite.
Ciao. Bien voilà, j'espère que cette conversation avec Daniel vous a donné envie d'en savoir plus sur l'Inola et le potentiel des couvertures végétales. Merci en tout cas pour votre écoute. N'hésitez pas à suivre l'Inola sur les réseaux sociaux, sur le compte l'Inola officiel. N'hésitez pas également à partager cet épisode autour de vous s'il vous a plu et si vous pensez qu'il peut être utile à un professionnel de votre entourage. Je vous invite bien sûr à suivre l'Institut V sur les réseaux, à nous partager vos commentaires ou vos questions. Et si vous souhaitez rejoindre notre réseau professionnel dédié à la gastronomie végétale, je serai heureuse de vous accueillir au club et de vous faire rencontrer toutes ces belles personnes dont nous parlons régulièrement ici. Je vous dis à bientôt pour le prochain épisode. Portez-vous bien !